11h45 à tous, un excellent lundi sur les ondes de Boulevard. Merci d'être là. Jeff Fortin qui vient de rentrer en studio. Patrick Roy, still alive, toujours en vie. C'est lui qui va gagner la Coupe Stanley, j'en suis persuadé.
Ben, moi, ce que j'aime de Patrick Roy...
Je pense que c'est mon cœur qui parle.
Oui, c'est clair.
Pas ma tête, pas mon raisonnement, c'est vraiment mon cœur.
Écoute, mon cœur parle aussi parce que les Islanders ont gagné en deuxième période de prolongation le premier match de la série alors qu'ils perdaient 3-0 dans la série. Puis quand ils ont gagné, je me suis dit, ah, ça se peut. Ça se peut avec Pat.
Qu'il soit capable, avec Pat, oui.
C'est ça.
Qu'il soit capable de remonter, mais je regarde, tu sais, Colorado, Winnipeg, là, je veux dire, c'est Winnipeg ne reviendra pas de l'arrière.
Ça l'équipe pour laquelle moi j'ai voté pour la Coupe Stanley, comment ça va?
T'en rappelles-tu?
Les Canucks de Vancouver.
Ça va bien, ça va bien.
Hey, 23-1.
Les Canucks sont rendus avec leur troisième gardien de but parce que les deux premiers sont blessés. Oh. Hier, ils perdaient 3-1. Il restait 3 minutes à faire au match. Ils ont marqué 2 buts puis ils ont gagné en prolongation.
Je leur ai envoyé des photos là, avec une pancarte, en disant « Lâchez pas, les gars, Yannick ».
Sont en feu total, les Canucks.
On a quand même mis 2000$ sur la table, l'équipe ici au complet.
Oui, exact. Commençons avec Colorado-Winnipeg. Colorado mène la série 3-1. Winnipeg reviendra jamais de l'arrière.
Jamais.
L'Avalanche
domine tellement. Hier, j'ai regardé le match en faisant mon training. Et écoute, l'Avalanche est partout. L'Avalanche offensivement met une pression énorme sur une défensive qui est la faiblesse des Jets de Winnipeg. Puis par la suite, les joueurs en attaque sont tout simplement en feu. Nishutkin, un tour du chapeau hier. Arturi Lehkonen, l'ancien du Canadien, a bu dans un quatrième match. Mais oui, il a toujours été clutch dans ces moments-là. Même à son année recrue, dans une série contre les Rangers, il avait marqué 3 ou 4 buts avec le CH.
On n'aurait jamais dû le laisser partir.
Ben, moi, honnêtement, dans la...
Un autre!
Non, mais... Cette transaction-là, je la comprenais. T'avais un choix de première ronde, t'avais Justin Baron, t'étais en processus de reset, reconstruction, appelle ça comme tu veux. Mais Lehkonen, j'ai toujours trouvé que c'était un beau projet, puis il est comme dans la chaise parfaite au Colorado, c'est-à-dire 6e, 7e attaquant de l'équipe, amène de la rapidité, amène une belle énergie, peut jouer sa deuxième unité d'avantage numérique, joue sur ta première unité de désavantage numérique. C'est vraiment un joueur complet.
Okay. Steph dit qu'il faut absolument que les Jets se fassent éliminer car le Canadien a leur premier choix. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement sur Twitch?
Ben, c'est que le Canadien a le premier choix des Jets de Winnipeg dans l'échange de Sean Monahan.
Ça, c'est s'il passait la première ronde des séries, là, le Canadien avait pas le choix, je comprends pas.
Il dit qu'il faut qu'il se fasse éliminer ou il faut qu'il gagne.
Ce que Steph dit sur Twitch, faut absolument que les Jets se fassent éliminer car le CH avait leur premier choix.
Ouais, tu nous checkes ça, Tom?
Ouais, je regarde ça.
Qu'est-ce que ça avait comme impact?
Ça sera pas très long, je vous reviens.
Parce que pour ce qui est du choix de repêchage, ça n'a pas rapport.
Ben, c'est parce que des fois, il y a des choix conditionnels, mais ça serait différent de ce que Steph nous raconte. C'est-à-dire, exemple, les Jets de Winnipeg disent « On te donne un deuxième choix, mais je vais te donner un premier choix, je me rends en finale de conférence. »
Ah, voilà.
C'est un choix de premier tour, point. Donc, il n'y a pas de condition ou quoi que ce soit. Donc, c'est que plus les Jets perdent vite, plus on est haut dans la première ronde.
OK, je comprends.
Voilà.
Ensuite, Vancouver contre Nashville. Ben, Pascal avait dit que c'était Vancouver qui remportait cette série-là. Effectivement, Vancouver est pas mal en avance, là, 3-1. Qu'est-ce qui ferait en sorte que Nashville serait capable de remonter à pente sur Vancouver?
Deux choses. Les deux premiers gardiens des Canucks sont blessés. Donc, hier, on s'est retrouvé devant le filet avec un ancien porte-couleur des Lions de Trois-Rivières dans la East Coast League. Fait que t'imagines, le gars en 3 ans, il est passé des Lions à garder un match à Nashville en saison. Et il a très bien fait avec 27 arrêts sur 30 lancés. Et honnêtement, un match très honnête pour Arthur Silvas. Et donc ça, quand même, ça peut venir désavantager les Canucks. Ouais. Et l'autre chose, c'est que même si les Canucks viennent d'en gagner 3 sur 4, ils ont une moyenne de même pas 20 lancés par match. Donc ça aussi, ça peut les rattraper à un certain moment donné d'être pas capable d'avoir autant d'offensives que ça.
Ouais, puis ce gardien-là, est-ce que c'est un gardien qui avait déjà évolué dans la Ligue nationale de hockey? Parce que tu disais qu'il jouait pour les Lions là, il y a de ça quelques temps.
Ben écoute, il avait fait un court passage l'an passé de 5 matchs avec les Canucks. Les Canucks avaient eu beaucoup de blessures également devant le filet. Ça avait quand même bien été l'an passé avec 908 de moyenne d'efficacité. Mais cette année, en 4 matchs, il avait 881 de moyenne d'efficacité. Fait qu'il donnait quasiment 2 buts par 10 lancés. Hey, non, c'est pas, okay. c'est mais lui, pas un espoir de premier plan.
Non, mais on peut avoir des belles surprises.
Ben oui.
Patrick Roy, quand il était repêché, quand il était amené chez le Canadien, on pensait pas que ça allait être, ça y allait faire une différence là, dans les séries éliminatoires. Puis pour lui, ça a bien été. Dans son cas, je dirais pas que c'est le prochain Patrick Roy, mais ouais. Lui va essayer de garder les buts au-dessus de sa tête. Puis les gars qui jouent devant lui savent que si la rondelle se rend au filet, ben ça, il y a plus de chances de rentrer que de chances qu'il l'arrête. Fait que, quand tout le monde sait ce qu'il y a à faire pour faire gagner l'équipe, ça peut bien fonctionner.
J'ai Pierre-Luc Gilbert qui est fâché de ne pas avoir été invité le lundi, qui me dit « Lekkonen, c'était contre un choix de deux et non un choix de première. » Donc, d'autant plus que je me pose des questions sur la transaction dans ce cas-là.
Ah, voilà. Voilà.
Et voilà.
Sinon, les Rangers de New York qui affrontent Washington.
Balayage.
Fini. Ouais.
Mais j'ai la peine pour Ovechkin.
Oui, surtout que...
Ça fonctionne pas.
Non. Ah non, mais... Hier, j'ai regardé le match un petit peu plus attentivement en me disant « OK, qu'est-ce qui fonctionne pas chez Ovi? » C'est la vitesse, là. T'sais, il a perdu de la vitesse sur patin.
C'est trop vieux, là.
Ben, peut-être... c'est normal à son âge.
C'est ça ce que tu vas dire, toi.
Mais pour ça, il y a eu des belles années, là.
Non, non, mais c'est normal à son âge, je pense, à un moment donné, de ralentir le rythme. Hier, malheureusement, il n'y a pas de points, donc il n'y a pas eu de points dans la série contre les Rangers. Fait que c'est sûr que ça a fait la différence, mais les Rangers ont prouvé qu'ils étaient là pour de vrai.
Ouais. 38 ans, c'est trop vieux, ça?
Pour le hockey, peut-être.
Pour le hockey?
Ouais, mais là, avec les Russes, on ne sait jamais. Il y a peut-être 45.
C'est vrai qu'on est encore capable.
De
jouer au hockey.
À 38?
Ben oui.
Fait que toi, t'es un exceptionnel.
Ben, je ne jouerai jamais dans la Ligue nationale de hockey. Là. Pour les gens qui m'ont déjà vu jouer, ils savent que...
J'entends parler de toi au bar, fait que c'est quand même gros. Là.
Pas de tir au but hier, Alex Ovechkin, non, dans le match.
Aucun, puis en plus, aucun point dans la série, puis 5 tirs en 4 matchs. Puis on sait qu'Ovechkin est reconnu pour son tir. C'est pas assez pour un gars comme Alexander Ovechkin, décevant face aux Rangers. Mais je pense qu'on s'y attendait une série assez courte.
Falloir qu'il se lève, là.
Pourquoi on le garde?
On vit. Ben,
c'est-tu pour le nom? C'est-tu pour la Coupe Stanley avec la chute, la festivité, la fontaine?
C'est ton capitaine d'équipe.
Ouais, mais s'il veut jouer l'année prochaine, il faut qu'il se lève plus que ça. Sinon, il va
Il avait quand même une bonne fin de saison, par contre.
Oui.
Il avait réussi à atteindre.
Les Capitals?
Oui, t'as encore avec les Capitals. Il avait réussi à atteindre le plateau des 30 filets. Moi, je pense qu'on le garde tout simplement parce que c'est le capitaine de l'équipe.
Ouais, il veut gagner. Il veut péter le record.
Il veut péter le record de Wayne Gretzky, puis on veut que ça se passe
avec lui. Es-tu prêt de ça?
Oui, quand même. Il faudrait que je regarde le chiffre exactement.
C'est carrément ça qu'on s'attendait. Les Rangers, ça allait piler sur la tête de Washington et c'est exactement ce qui est arrivé.
Ouais.
Sinon, Edmonton contre Los Angeles.
Ouais, mais les Oilers ont surpris tout le monde en gagnant 1-0 hier. C'est pas dans l'ADN des Oilers, gagnent plus des matchs 7-5 qu'un 1-0. Et moi, je le vois très positivement parce qu'à un moment donné, dans les séries, tu as besoin de gagner des matchs différemment de comme tu es habitué de les gagner. Et l'an passé, c'était pas arrivé, puis ça expliquait l'élimination contre Vegas en deuxième ronde. Et là, d'avoir Stuart Skinner donner seulement un but en deux matchs à Los Angeles, on revient à domicile avec l'avance 3-1. C'est très positif ce qui se passe pour les Oilers présentement.
Ce soir, 19h, le Lightning se fait éliminer par les Panthers.
Oh!
Ben, tu sais, il y a deux courants de pensée là-dedans. Il y a un courant de pensée de gens qui disent « Mikhail Sergachev vient de revenir, c'était la pièce manquante au Lightning, puis ça se peut que la série se poursuive. » C'est un bon point. Honnêtement, je peux pas contredire ces gens-là. Puis il y a un autre courant de pensée que moi j'ai de dire « Les Panthers de la Floride ont appris à fermer les séries l'an passé. » Quand ils ont joué contre les Bruins en première ronde, c'était 3-3. Ils ont éliminé en 5 matchs par la suite Toronto quand c'était le temps de fermer la série, puis Caroline en 4 quand c'était le temps de fermer la série. Fait que je m'attends à ce que les Panthers répètent cet exploit-là ce soir.
Sinon, un peu plus tard, 21h30, beaucoup trop tard pour moi, Vegas qui mène la série 2-1 contre les Stars. C'est Vegas qui gagne encore ce soir.
Bien, série très particulière parce que chaque équipe a gagné à l'étranger jusqu'à présent. Il n'y a pas eu de victoire à domicile. Donc, si on regarde la moyenne des choses, on dirait... Oui, c'est au tour de Vegas de l'emporter. Puis les Knights nous ont appris l'an passé que quand ils perdaient un match en série, ils revenaient toujours fort. Dallas a joué un excellent match samedi soir. Pression offensive extraordinaire sur la défensive de Vegas. Mais est-ce que Dallas a assez de gaz encore, je vais le dire comme ça, d'énergie, parce qu'on a des vétérans comme Joe Pavelski, Jimmy Benn, même si on a d'excellents jeunes en Robertson, Rupe Hintz et Wyatt Johnson qui a marqué 2 buts. Ça va être à suivre, mais je pense que l'expérience de Vegas comme toi va faire le travail ce soir.
OK, Léo, sinon, Ligue de hockey, Junior Maritime, Québec, Bécomo qui... C'est Bécomo, là. Ils vont gagner ça.
Bécomo est trop fort pour la Ligue à l'heure
actuelle. Cap-Breton comprend rien.
Non. Puis, tu sais, Cap-Breton, en même temps, c'est une surprise qu'il soit là. Ouais. On s'attendait pas à les voir dans le carré d'as. C'est une super belle fin de saison. 2 belles rondes en série. les joueurs de 18 ans là-bas prennent une expérience énorme pour l'an prochain. Donc, c'est très positif ce qui se passe. Puis Drummondville qui mène 2-0 sur Victoriaville là, dans une série très régionale. Ouais. Les Voltigeurs de Drummondville m'impressionnent. Maverick Lamoureux, leur meilleur défenseur, est absent depuis le début des séries, ne jouera pas des séries. Il a été blessé. Il avait fait équipe Canada Junior. Et malgré tout, les Voltigeurs qui continuent à avoir du succès. Donc, chapeau à cette organisation-là.
Merci beaucoup, Jeff.
Ça fait plaisir.
Est-ce que tu rencontres le maire de la ville de Québec cette semaine?
Ah, peut-être bien demain. On vient de me glisser à l'oreille qu'il y aurait peut-être un petit point de presse demain où le maire pourrait se laisser aller à des questions. Alors, je vais suivre ça avec attention.
Allez-vous parler de la Chine?
Quel
point c'est un beau pays.
Tu as raison, faut que je pose une question.
Les dirigeants sont exceptionnels et le maire de Québec semble énormément les respecter.
Ouais, faut que je pose une question sur la Chine, c'est vrai.
Surtout dans leur façon de faire passer les choses.
Là. Oui. Oui, les projets vont plus vite en Chine.
Ah,
ouais, c'est normal, c'est totalitaire.
mais il a dit qu'il ne fallait pas être fanatique d'eux.
Non, c'est ça. Puis il ne faudrait pas mal interpréter ses propos. Là.
Ouais.
Mais il l'a quand même dit. Après, mais oui, il a fait la comparatif.
Ouais, c'est ça, il l'a quand même dit. Justin Trudeau aussi avait dit à l'époque qu'il était en admiration devant la Chine.
C'est le genre de choses qui se disent.
Ben, tu peux pas dire ça.
Mais ça dépend sous quel point.
Ah, oh, mais c'est un peu la même chose de Justin Trudeau, tu sais, le fait que les décisions se prenaient rapidement, puis qu'il y avait moins d'étapes et tout le kit.
C'est sûr que si tu grattes, puis tu te rends compte pourquoi ça se prend rapidement les décisions.
Ben, c'est ça.
Mais ça en dit beaucoup sur la personne. C'est comme s'il était antidémocratique.
Clairement.
Dans le sens où si la majorité veut quelque chose, lui, on dirait qu'il y a comme un mur entre lui et la majorité. Je parle du maire Marchand, là. Et il a l'impression que si la majorité veut ça et que lui veut pas ça, c'est parce que la majorité n'a pas été bien éduquée sur le sujet.
Ben, elle n'a pas été bien formée. Un peu, tu sais, c'est le discours qu'on entendait beaucoup dans les années 90. Là, souviens-toi, on était très jeunes pour commencer à s'intéresser à la politique. Des souverainistes. Non, mais attends, toi, t'es pas souverainiste. T'as pas compris.
Exact.
Je vais te l'expliquer. Hey, ça, mes chums qui étaient souverainistes quand ils me disaient ça, je dis non. Là, vous faites une entorse à mon intelligence.
Mais t'essaierais ça chez vous à la maison pour voir si ça passe. Là, chérie, là, je vois que tu n'adhères pas à mes points, tu es contre moi. C'est parce que tu n'es pas assez éduqué sur le sujet.
Tu n'as pas compris.
Ça, ouais, d'après moi, elle n'aimera pas ça.
Tellement condescendant.
Ben
peu importe qui.
Oui,
tellement.
On peut-tu se respecter, mais dire ça, là?
Ah non, c'est ça.
Faut pas que ça m'arrive, moi, là, un jour.
Ah oui, puis là, jamais. Je dis, ben non, moi, voici mes arguments pourquoi je suis pas souverainiste. Puis, tu sais, je nommais des bons points du Canada. Puis,
mais t'as pas compris.
Ah non, t'as vraiment pas compris.
Ça,
non,
c'est...
j'ai compris.
Fait que bonne rencontre avec le maire demain, c'est possible.
Merci.
C'est de l'ignorance, de l'imbécilité. Quelqu'un qui te répond ça. Ça manque d'intelligence en soi, dire ça à quelqu'un.
C'est clairement. On dirait que t'es fâché. C'est lundi. Parce que
ça me prend dans le
Ah ouais, fâche-toi, c'est vrai.
Femme toxique sur les ondes de boulevard.
Voyons donc. Tu vas me prendre ma job. Marceau le midi.
La belle visite en studio, Équipe Priorité Québec, Patrick Paquet, qui est le chef d'Équipe Priorité Québec. Salut Patrick.
Oui, bon après-midi.
Bon après-midi. Ça brasse en tabarouette dans le merveilleux monde municipal, autant à Montréal qu'à Québec. On dirait que les autres municipalités, ça a l'air plus tranquille que les nôtres.
Ça chauffe à la ville de Québec.
Ben oui, mais qu'est-ce qui se passe pour que ça chauffe autant à Montréal qu'à Québec?
Je pense que c'est un désaccord, de toute façon, de la vision de notre administration, c'est-à-dire du maire Marchand, avec les citoyens de la Ville de Québec. On dirait que, en plus de ne pas avoir de consultation, de pas parler avec ses citoyens, on veut aller tellement rapidement que là, on débarque toujours. C'est comme un éléphant qui débarque toujours dans la pièce.
Mm-hmm.
Puis après, à un moment donné, on se demande pourquoi ça fait... que ça fait des ravages, que ça peut mobiliser des gens puis dire, écoutez, on est en désaccord, on n'a pas été consulté, vous débarquez ici aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe?
Ouais.
Mais c'est semaine après semaine. Tu sais, là, il y a eu la marmotta vendredi passé, vous vous rappelez?
Ouais.
Mais on dirait qu'on a un ou deux dossiers comme ça à chaque semaine.
Le dossier de la marmotta est épouvantable.
Ben
je veux dire, ces gars-là sont là depuis 2009. Ils ont pris soin du terrain. Ils n'ont pas amené de fer, là, de métaux, à rien, rien, rien.
Pas de problème.
Ils ont pris le bois qui était là disponible. Ils ont fait des trails à pelle, pas de machinerie. Ils n'ont rien, rien salé. Puis là, la ville dit, ouais, on aurait eu un avis du ministère de l'Environnement qui nous dit de faire en sorte que ça redevienne au milieu naturel. Et la ville dit, en plus de ça, on va le remettre en milieu naturel, puis on va faire une piste de vélo peut-être un peu plus familiale. Ils n'ont jamais tenté de s'entendre avec les gars de la marmotta. Puis, tu sais, je dois dire les choses, là, je l'ai dit sur les ondes la semaine passée, tu sais. Quand j'ai reçu les gars de la marmotta, j'avais invité aussi Jean-François Gosselin. Jean-François Gosselin avait dit, Yann, je peux pas être là, j'aurais aimé être là pour discuter avec eux. Puis ça s'est pas fait. JP, qui était avec nous, me donne son numéro. Je l'envoie à Jean-François. Jean-François discute avec JP de la Marmotta. Et ça fait en sorte que JP se fait dire « Bon, on va retarder un peu le dossier, puis ça va vous donner le temps de nous envoyer la fameuse pétition de signature. » Et tout ça, c'est vrai, en passant, Patrick, là, je peux te le montrer. Là.
Oui.
Et le lendemain, conférence de presse, la Marmotta, on détruit ça, on va mettre des blocs, puis ça va faire en sorte qu'il ne se passera plus jamais rien là jusqu'à temps qu'on on amène le bulldozer là-dedans.
Sans jamais leur parler, là. Puis c'est pas des deux de pique, les gars. Ils voulaient avoir des conversations pour savoir comment est-ce qu'on pouvait collaborer la ville et eux.
Puis dans ce secteur-là, il y a des gens qui prennent la petite forêt de la Marmotta pour une dompe. Fait qu'eux autres, ce qu'ils font quand ils voient une laveuse sécheuse, ils apprennent, puis ils s'en vont porter ça à dompe. Ils se sont toujours bien occupés de ça. Puis là, Jean-François, ce qu'il me disait, c'est qu'Yann, tu sais, faut que les services de police puissent y avoir accès à la Marmotta. Faut que l'ambulance puisse avoir accès à la Marmotta. C'est pas possible. Qu'est-ce que j'apprends? C'est que c'est la ville qui a mis des blocs de béton pour pas, justement, qu'il y ait des véhicules motorisés qui puissent se rendre jusqu'à la Marmotta. C'est deux blocs de béton.
Oui.
C'est n'importe quoi.
C'est vraiment n'importe quoi. Puis de plus, c'est qu'on commence à avoir une discussion, un semblant de discussion, puis on leur donne jusqu'au 8. Et au moins, ça leur laisse le temps de déposer la pétition au prochain conseil municipal, parce qu'on sait que c'est mardi prochain, le prochain conseil. Puis là, on débarque vendredi sans aviser personne. Mais le pire dans tout ça, c'est que dimanche passé, il y a eu une sortie, rappelez-vous, il y a eu une sortie médiatique du côté de Jean-François Gosselin. Puis là, on nous a dit un peu n'importe quoi. Et on a dit des faussetés.
Ouais. On a dit que l'environnement
oui.
Aurait envoyé une lettre à la Ville de Québec pour dire qu'ils doivent absolument remettre ce terrain-là à l'état naturel.
Effectivement.
Ils ont jamais dit ça.
Dimanche, là, quand j'ai entendu justement sur dans tous les médias, dimanche, quand j'ai entendu dans tous les médias, justement, Jean-François Gosselin faire cette déclaration-là, j'ai vu tout de suite qu'il y avait un problème parce que ce n'est pas la façon de faire du ministère. Le ministère ne veut pas se mêler des affaires municipales à moins d'être obligatoire, qu'il y ait vraiment un immense problème. Puis, on l'a fait tout de suite le lendemain. Le lundi matin, on a fait une demande d'accès à l'information, mais on l'a fait à la Ville de Québec. Imaginons, on a eu notre accusé de réception, mais on n'a pas eu de réponse encore. Mais là, ça a été brillant, la part de justement des journalistes de Radio-Canada. Lui, il a fait la demande d'accès au ministère de l'Environnement, puis il a eu la réponse pratiquement en dedans de 72 heures. Ça veut dire que le ministère, il voulait justement se libérer de tout ça puis dire, écoutez, là, embarquez-nous pas dans votre... embarquez-vous pas dans cette histoire-là. Nous, on n'a rien à voir là-dedans.
Mais qui a menti, Pat? Patrick?
C'est carrément Jean-François Gosselin.
Est-ce que c'était une mauvaise information qu'il y avait eue ou il a menti?
Non, parce que c'est gros de dire que quelqu'un a menti.
Ben oui.
Mentir, là, c'est un
moi, je le sais pas
bon
qui...
défaut dans
moi, je ne sais pas qui a dit de dire ça, mais c'est clairement une fausseté. C'est clairement une fausseté, puis quand je vous dis, là, nous, là, on aurait dû
mais c'est une fausseté consciente ou inconsciente? Là? C'est ça qu'on cherche à savoir, nous.
C'est une très bonne question. Puis on va la poser au conseil municipal mardi prochain. Ça, c'est très clair.
Mais c'est vrai ou pas? Que vous allez la poser pour savoir.
Ah, mais oui, c'est vrai. Mais oui, clairement, on va
parce que derrière tout puis ça, il y a un exercice vraiment important.
Oui.
Puis l'exercice, c'est comment est-ce qu'on peut travailler en collaboration avec nos concitoyens?
Effectivement.
Et ça a été échoué. Moi, si j'étais enseignante, là, ce serait zéro sans copie. Parce qu'il y avait toutes les possibilités de le faire. Il y avait des gars qui ne sont pas crinqués pour être crinqués, qui auraient accepté que ce soit détruit s'il y avait des raisons pour le détruire parce qu'ils auraient compris. Puis je parle en toute connaissance de cause parce que celui qui est venu ici, Jean-Philippe, là, c'est d'amis très proches de moi. Fait que je sais un peu leur personnalité. Là, c'est un exercice qui allait faire paraître la Ville de Québec pour ce qu'elle est, au final, dans la façon dont elle est gérée. À savoir, est-ce qu'il y a une facilité d'entrer en contact avec nos citoyens, de faire les choses comme elles se doivent. Puis là, on a vu conférence de presse d'indant, ces gars-là, sans les rappeler. On a vu le rapport du ministère qui n'était pas celui qu'on croyait.
Parce que c'est bizarre que ce soit moi, le nobody, qui a fait le lien entre les gars de la Marmotta puis Jeff qui est responsable des loisirs à Ville de Québec. C'est pas normal. Moi, je paye des gars comme Jeff, comme vous autres, pour que vous puissiez y aller de l'avant. Puis je veux pas entendre parler de vos histoires.
Non.
Organisez-vous avec les gars de la Marmotta. On peut tous créer un OSBL pour que tout ça soit legit, qu'il puisse y avoir des assurances. Puis regarde, s'il y a de quoi, tu m'en reviens avec ça. Là, les gars, ça fait depuis 2009, sont obligés de faire appel aux médias pour faire entendre leur cause. Puis là, ben, la ville se sent un peu pognée. Hey boy, on ne pensait pas qu'on allait parler de la Marmotta tant que ça dans l'actualité. OK, ben merci Yann de m'avoir donné le numéro de téléphone. Je vais l'appeler, puis ils se sont parlé. C'est pas ma job, moi, de faire la transition de numéro de téléphone. C'est la job des gars à ville, gars et les filles.
Mais Yannick, une chance qu'ils ont communiqué avec les médias. Mais si on regarde le portrait global, là, dimanche passé, là, Est-ce qu'on l'a voulu faire un semblant d'apparence, OK? On va le mettre en perspective, là. Est-ce qu'on a voulu faire un semblant d'apparence que on allait récupérer les lieux pour les remettre dans leur état naturel, mais que c'était pas la faute de la Ville de Québec pour essayer de mettre ça sur la faute du ministère?
Mm-hmm. Mais pourquoi alors? T'sais, ça a-tu été vendu au privé, puis on le sait pas? Y a-tu des ententes qui ont été conclues? Y a-tu des pourparlers? Pourquoi ça urge maintenant? Si en plus...
Ça, on se pose la même question que vous. Là, écoutez, ça, c'est le terrain qui est adossé au futur garage, s'il y a un projet de tramway, au futur garage du tramway, mais ce qui est de l'autre côté de Chaudière. C'est vraiment de l'autre côté de la route, qu'on pourrait dire, là. C'est pas du même côté. Est-ce que à court et moyen terme, on l'a prévu de faire un développement immobilier là? Écoutez, c'est un terrain qui appartenait à Communard, que la Ville a racheté en 2016. Ça fait 15 ans que la pièce est là. Mais ce que je peux vous lire, puis moi, sérieux, on est tombé un peu, on va dire la vraie expression, on est tombé sur le cul là, au bureau, là, pour de vrai, là, moi puis mes collègues, avec toute l'équipe, parce que rapidement, on fait une demande d'accès à l'information, puis on n'a rien eu de la part de la Ville, là. C'est silence radio, ils vont l'étirer jusqu'au maximum. Imaginez
ils vont prendre le 30 jours.
Imaginez si on aurait l'odieux en plus de nous demander 10 jours supplémentaires. Parce que là, ils ont 17 jours dans le fond ouvrable. Puis là, ils nous demanderaient 10 jours supplémentaires. Mais tu sais, on dit que ce milieu-là, il est appelé un écotonde. Un écotonde, c'est un type de milieu qui n'est pas encadré par la loi sur la qualité de l'environnement. Puis là, c'est très clair. Le ministère de l'Environnement n'a jamais remis d'avis de non-conformité à la Ville de Québec. Puis on va même plus loin. On dit qu'il revient à la Ville de déterminer les usages acceptables dans ce type d'espace, précise le ministère dans un autre courriel. Pourquoi qu'on s'entend pas justement pour dire, écoutez, là, pour nous, ce qui est problématique, c'est ce saut-là, parce qu'il pourrait être dangereux. Puis au niveau des assurances, nous ne sommes pas assurés. Vous devez vous assurer. Là, on a même entendu parler que le fondateur, M. Lachance, aurait trouvé un assureur au coût de 10 000 $ qui pourrait assurer justement les activités durant toute l'été. Mais...
Avec une OSBL, c'est possible de le faire. C'est juste que c'est de la façon dont c'est fait. Là, on va enlever ce terrain-là qui sert à des gens qui s'en occupent. Ça ne nous coûte pas une scène à nous autres.
Oui.
Okay? Et on va dire aux gens de la ville, là, toi, tu vas aller tout remettre ça à l'état naturel, puis tu vas refaire des pistes de vélo, puis on va mettre des poubelles. Fait que là, ça va être la ville qui va prendre en charge ce terrain-là, puis les activités qui se passent là, alors qu'on avait déjà des citoyens qui le faisaient gratuitement et bénévolement depuis des années et des années.
On ne se cachera pas que ça va nous coûter une fortune, là. Ça va directement dans le budget de loisirs de la ville.
Là. Ils ont dit un genre de 50 000 là, pour remettre ça. Ouais.
Ça, c'est une situation qui est arrivée à la surface avec les médias, mais combien de ce genre de situation-là, puis comment c'est géré?
C'est un après l'autre.
Ça peut être plus loin aussi.
C'est un après l'autre. Quand Pierre-Luc Lachance l'a échappé à deux ou trois reprises en conférence de presse pour le déneigement, là, rappelle-toi, Yannick, là, on l'a sorti tout de suite, François Moisan. Jean-François l'a échappé dimanche. Qui qu'on l'a sorti vendredi en conférence de presse? Pourquoi M. Gosselin n'était pas présent? C'est le responsable.
Oui, exact.
Puis dans le fond, c'est M. Moisan qui était là avec un responsable de l'environnement. Puis là, M. Lachance est débarqué. Il est débarqué comme un cheveu sur la soupe parce que personne n'avait été avisé. Puis on était en négociation, là. On essayait de trouver. Puis il faut rappeler aussi que Jean-François Gosselin, lors de la campagne électorale de 2021, a défendu le projet de Fat Bike Chauveau. Puis on disait qu'on voulait conserver les pistes parce qu'on leur enlevait pratiquement le deux tiers des pistes, puis on conservait seulement un tiers des pistes. Et on est venu à leur défense. Et pourquoi qu'on n'a pas agi de la même façon dans le dossier de la Marmota? Moi, je me pose la question. Je ne sais pas ce qui est derrière, là, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose de caché derrière ça.
Mais là, vous allez leur poser des questions mardi prochain.
Mardi prochain,
est-ce que...
on n'aura pas de réponse.
Est-ce que vous avez entendu chez Équipe Priorité Québec, est-ce que vous avez entendu que Pierre-Luc Lachance et toute son administration auraient pris 29 000 $ dans la caisse des citoyens de la Ville de Québec pour s'inscrire au défi Pierre Lavoie? Donc, deux équipes de vélo au défi Pierre Lavoie et l'argent qu'on prend, c'est pas les gars et les filles qui veulent faire le défi. On prend l'argent des citoyens, on donne ça à Pierre Lavoie, qui a une très belle cause, soit dit en passant. Oui. Puis eux autres vont prendre des photos en disant « Hey, moi, Pierre-Luc Lachance, j'ai participé au grand défi Pierre Lavoie. » Puis il va mettre des belles photos sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si ça va à l'encontre d'un règlement, mais au niveau éthique, au niveau moral, ça n'a pas de crise de bon sens.
Et moi, je trouve que ça n'a pas de bon sens non plus.
On aurait pu t'inscrire, Yannick. Tu comprends, avec cet argent-là aussi, ça serait une invitation à tous les citoyens.
Oui, mais si je veux m'inscrire au défi Pierre Lavoie puis donner cet argent-là à Pierre Lavoie, je vais le prendre dans mes poches.
Ça va être du privé.
J'ai des valeurs fondamentales.
C'est du privé. Ouais.
Mais je ne prends pas l'argent des payeurs de taxes à qui on leur dit « Hey, on a tout fait ce qu'on pouvait faire, mais là, on n'a pas le choix. Faut augmenter les taxes municipales encore. Puis encore là, on vous fait un cadeau. » Puis de l'autre côté, ils prennent 29 000 $ pour s'inscrire au défi Pierre Lavoie.
On n'est pas contre la vertu, on est contre l'administration de cet argent-là.
Mais là, je dois vous remercier parce que vous êtes à l'affût de l'information, parce qu'il y a un comité exécutif là, qui a été publié tout à l'heure à 11h30, il y en a eu un mardi. Probablement que c'était en instance d'approbation finale à l'intérieur de ce comité exécutif-là. Mais comme vous dites, c'est se faire du capital politique sur le dos des citoyens.
Si c'était en instance d'approbation, ça veut dire que ça n'a pas passé finalement?
Non, c'est que... Maintenant, le comité exécutif s'est donné des pouvoirs beaucoup plus grands. Ça veut dire que ça passe pas nécessairement au conseil de ville. Quand il passe au CA, au comité exécutif, c'est en instance finale d'approbation.
Mais
ça
pouvez-vous
veut dire...
critiquer ça, vous, dans l'opposition? Ou...
Non, on peut. On reçoit un document qui est public là, à la fin du mois, même pour les décisions de 250 000 et moins, que maintenant on peut aller jusqu'à 250 000, mais c'est sûr qu'il faut aller en appel d'offres toujours quand on est au-dessus de 100 000. Mais on s'est donné des pouvoirs qui sont... on s'est approprié des pouvoirs autant pour les directeurs d'arrondissement que pour le CE, dans le fond, le comité exécutif. On s'est donné des pouvoirs beaucoup plus grands pour pouvoir justement prendre les décisions directement sans venir au conseil municipal. Ça, on était sortis publiquement pour on avait dit qu'on n'était pas d'accord avec cette façon de faire-là parce que, justement, on peut débattre au conseil de ville. Puis là, en ce moment, on le sait. Là, ils disent, oui, vous pouvez en débattre, mais là, il faut en débattre sur notre 3 minutes qu'on a en bout tout simplement au conseil de ville. Et imaginez tous les sommaires qu'on pouvait débattre avec un sommaire que maintenant, on ne peut plus débattre. Puis il faut que tu en fasses. Il faut le faire en point de presse tout simplement maintenant. Là. Yannick, on n'a plus le choix.
Qui fait que vous n'êtes plus en confrontation? Vous êtes
non, plus du tout. Mais non, puis ça leur fait bien moins de sommaires décisionnels à pouvoir présenter au conseil de ville. Puis eux, ils disent que c'est pour aller plus rapidement. C'est pour aller plus rapidement, mais on vote plus d'argent.
Mais ça se peut, parce que les politiciens, vous êtes capables de perdre du temps pour perdre du temps aussi. Là. Il y a peut-être une petite parcelle de tout ça.
Êtes-vous d'accord avec Geneviève Guilbeault qui mentionne que la province de Québec n'a pas à gérer le transport urbain dans les villes comme Montréal et Québec?
En partie. Pas tout à fait.
Bon, mais démêlez-moi ça.
Ce que je suis d'accord avec Geneviève Guilbeault, c'est que les sociétés de transport doivent commencer par bien gérer ou doivent démontrer, en tout cas, avec là, le demander des audits de performance, mais doivent commencer par démontrer qu'ils ont regardé que tout a été bien fait dans leur cours. Ça veut dire revoir les parcours, revoir le côté là, des chefs. Là, quand tu dis que c'est 16 % de ton budget, puis qu'on a 388 chefs pour 1600 employés, là, c'est quand même un chef pour 5 employés. Là. C'est, écoutez, dans le privé, on voit pas ça. Là. On voit jamais ça dans le privé. Et si on n'est pas capable de démontrer qu'on fait attention à l'argent public, ça veut dire qu'on gère bien les deniers publics de nos concitoyens, avant de pouvoir quémander, ça veut dire qu'avant de pouvoir aller quêter de l'argent au gouvernement provincial, moi, je pense que c'est pas la bonne façon de faire. Puis depuis que cette administration-là est en place, on ne l'a jamais fait. On ne l'a jamais revu une seule et unique fois la façon de faire d'administrer le RTC. Okay, ça, c'est pas normal.
Geneviève Guilbeault n'avait pas mentionné qu'elle voulait faire des audits?
Oui, c'est en cours maintenant. Là. Oui, puis c'est une bonne chose, d'ailleurs. Okay. C'est une bonne chose parce que elle, pour elle, c'est ça qu'elle veut démontrer. Elle veut démontrer que on pourrait peut-être mieux gérer, dans le fond, l'argent des citoyens à travers même nos sociétés de transport. Là, Montréal, on sait qu'ils ont commencé. À Montréal, là, ils ont pris vraiment le bâton de pèlerin, puis ils ont dit, OK, on va commencer par regarder dans notre cours avant, puis après ça, on demandera. Allez, ils sont en train de le faire, le travail. Mais nous, on n'a même pas commencé à le faire. Puis on le réclame déjà depuis un an et demi. Et pourquoi qu'on ne l'a pas commencé à le faire? Pourquoi qu'on ne l'a pas dit? On revoit tous les parcours. On peut-tu mettre des parcours aux heures au lieu de le mettre aux 30 minutes parce qu'ils sont moins achalandés? Est-ce qu'on peut changer des parcours? Est-ce qu'on peut l'éliminer? Est-ce qu'on peut en rajouter qui serait beaucoup plus performant? Puis est-ce que... Est-ce qu'on peut diminuer le nombre de personnes qui sont à l'administration en ce moment? Je dis pas de congédier des gens. Là.
Écoute, les mécaniciens dans le garage me disent, Yann, il y a des véhicules qui sortent pas là, parce qu'on n'a pas de pièces.
Effectivement.
On est en 2024, là, on n'habite pas en Afrique, là, mettons, en Afrique profonde, là, on est en Amérique, là, oui. On n'est pas capable d'avoir des pièces pour certains véhicules, puis les véhicules ne sortent pas, il y a des retards à ce qu'on me dit. Les chauffeurs me disent, Yann, l'achalandage, c'est impossible qu'on ait battu des records d'achalandage.
Bon, ouais, ça, j'adore, parce que je me fais dire la même chose. Bon, la première des choses, il y a moins de mécaniciens que de hauts dirigeants administratifs pour réparer nos autobus. Là, en ce moment, effectivement, j'ai eu les mêmes informations que toi, c'est qu'on prend des autobus, que dans le fond, on sait qu'on n'aura plus jamais les pièces, là, parce qu'on sait que Vano l'a fait en partie faillite puis il est racheté en ce moment. Là on met ces autobus-là deviennent, dans le fond, des cimetières à pièces. Ça veut dire qu'on va prendre les pièces sur ces autobus-là pour pouvoir faire rouler les autres. Vous imaginez, là, au prix qu'on les a payés, puis ils n'ont même pas roulé 5 ans. Là. C'est pas drôle, là. Puis, je me fais dire la même chose, on ne peut pas être revenu. Là, le maire se pète les bretelles en disant « Nous sommes revenus à 94 % de l'achalandage avant, justement, la pandémie, puis Montréal est à 80 %. » Mais moi, je me fais dire le contraire, parce que à tous les jours. À tous les jours, il y a des parcours qui sont, supposons, aux 30 minutes, qu'on va mettre aux 60 minutes, puis il y a même des parcours qu'on va annuler parce qu'on manque d'autobus. Alors, on retourne les chauffeurs à la maison. Puis on dit non, aujourd'hui, tu ne rentres pas parce qu'on n'a pas d'autobus pour toi pour pouvoir faire ton parcours.
On dirait qu'on a juste fait ça, acheter des autobus ces dernières années, ou c'était moi qui n'étais pas à l'affût.
Je ne sais pas. Surtout avec l'étude des crédits, là, moi, j'ai fait un méchant saut sur le 1,8 million de dollars par véhicule. Oui. Je me suis dit, mettons, 3-4. Non, c'était juste un véhicule.
Ça m'a dit que quelqu'un avait poussé sur le crayon.
Il est à 1,8, mais ça, c'est quand il arrive. Après ça, il faut que tu le prépares. Il faut que tu ajoutes des affaires pour que ce soit au goût du jour.
Il se rajoute environ 400 000. Il se rajoute 400 000
$ À 1,8 million, il n'est pas prêt?
Non, il rajoute 400.
Je pense que, me semble qu'il était à 1,3. Puis on rajoute 4-5 qui fait un
point. Qu'est-ce qui n'est pas prêt, mettons? Parce que je pourrais le faire peut-être pour 20$. Non, mais honnêtement. Qu'est-ce qui n'est pas prêt à 1,8 million quand il arrive dans le garage?
Mais là, 1,8, c'est-tu là où vous dites, bien, tu sais, Geneviève Guilbeault, elle est peut-être responsable de. Parce que le gouvernement provincial, lui, au niveau des règles environnementales pour les municipalités, pour leur transport en commun, ils peuvent leur demander, bien, vous devez acheter tant de véhicules électriques versus tant de véhicules au diesel. Tu sais, ils peuvent avoir un impact. Là. Si le RTC est constamment obligé d'acheter des véhicules à 1,8 million, on n'en peut plus. Là,
c'est sûr que, de ce côté-là, c'est sûr qui est problématique, c'est que le gouvernement provincial est exigé d'aller très extrêmement rapidement pour l'électrification, puis on ne peut pas aller aussi rapidement. Ça, c'est tout. Mais j'entends jamais le maire se lever et dire non, nous, là, t'as beau nous donner une limite, là, mais on ne la respectera pas, ta limite. Mais le maire de Lévis, il le fait. Lui, il le fait, mais le maire de Québec, lui, il le fait pas. Et c'est normal, c'est le grand preacher de l'environnement. Et, c'est pas dans son discours naturel, vous comprenez? Et il ne peut pas sortir et dire moi, je serais pas capable de respecter ça. Mais pourtant, il faut bien gérer l'argent des contribuables, puis il y a une limite à tout ça. Puis là, les gens, là, ils en ont assez des taxes.
Mais ça, c'est facile à dire, puis je pense que tout le monde le dit, là, c'est pas juste vous, mais bien gérer l'argent. Qu'est-ce qui est rendu si compliqué pour bien gérer l'argent dans tous les paliers gouvernementaux? Puis pourquoi est-ce qu'on fait avec des déficits? Ça fait un bout que vous êtes en politique. Pourquoi les déficits, selon vous, sont rendus acceptables?
Bon.
Je sais que c'est une grande question philosophique.
Non, c'est que là, la pandémie a aidé aussi. La pandémie a permis, dans le fond, aux sociétés de transport de faire éponger leur déficit par le gouvernement provincial. Là, c'est ça que Mme Guilbeault avait dit. Elle avait dit, à partir de 2020...
En pandémie seulement sur certains...
Effectivement. En 2023, Mme Guilbeault a dit, j'épongerai pas le déficit, par fin de compte. Elle a épongé le déficit de 2023, puis elle a dit, on va éponger le déficit de 2024 prévu de 30 millions de dollars pour les RTC. Elle m'a dit, là, c'est vraiment la dernière fois cette fois-ci. La première fois, elle avait dit que c'était la dernière fois, mais ça n'a pas été la dernière fois.
Comme des parents là, qui disent « Hey, si t'arrêtes pas, t'en vas dans le coin. »
Puis là, tu le sais que tu l'as quand même, ton chocolat. Et tu dis « Je vais recommencer parce que je vais l'avoir pareil. » Mais elle a dit « Non, là, cette fois-ci, là, ta barre de chocolat, si t'écoutes pas, tu l'auras pas, ta barre de chocolat. » Tu comprends? Et là, il va falloir vraiment écouter. Mais là, il faut aller aussi selon nos moyens puis selon notre capacité de payer. Puis là, on avait quand même ce réflexe-là depuis quand même les dernières années pour la personne qui était le premier magistrat de la ville.
Budgéter selon le budget accessible?
Oui, effectivement. Si on prend Jean-Paul Lallier, si on prend Mme Boucher, qui, on le savait, Mme Boucher était reconnue pour être, tu sais, on l'appelait Mme...
Une main de fer dans un gant de velours, là.
Une main de fer dans un gant de velours, mais on l'appelait, j'ai un blanc, mais Mme Blancheville. On l'avait surnommée.
Elle était proche de sa sacoche.
On l'avait surnommée Mme Blancheville parce qu'elle était prête, justement, elle était dans le micro des sommaires décisionnels.
Mais ça, je pense que c'est de garder les rênes là, sur un budget. Ben oui. Ça peut paraître un peu intense, mais quand c'est pas ton argent...
Moi, je l'ai vu. J'ai vu commencer...
Vous n'avez pas nommé Régis Labeaume, là? Vous avez fait un choix?
Non, on a commencé à l'échapper à partir du troisième mandat de Régis, moi, je trouve. Le dernier, d'ailleurs, là, parce qu'il en a fait 3,5. Mais, si on peut dire, le premier 2 ans de Régis, après ça, il a fait fin 2007 à 2009, de 2009 à 2013. Sérieusement... On gérait la ville un peu comme un entrepreneur. Un entrepreneur, là, ça gère bien l'argent de sa compagnie parce que s'il manque d'argent, puis il tombe dans la marge de crédit, il va endurer ça, mais il n'endurera pas ça longtemps parce qu'il va se mettre sa protection
de
la loi.
Donc, jusqu'au deuxième mandat de Régis Labeaume, on gérait encore comme un entrepreneur.
Oui, puis Mme Boucher, j'ai toujours vu ça. Puis du côté de Jean-Paul Lallier, sérieusement, là, il y a eu une bonne gestion pour la Ville de Québec.
Jusqu'à la fusion.
À partir du troisième mandat de Régis Labeaume, on dirait que, je ne sais pas, c'est que quand tu devenais maire de la Ville de Québec, au lieu de que ta première fonction, ça soit de donner des services, ça veut dire d'être près du citoyen, de donner les services de proximité aux citoyens, on dirait qu'on s'est donné des grandes visions.
On voulait faire un leg?
On voulait faire un leg, effectivement.
On partait, donc on se disait, on ne ramassera pas les pots cassés.
Il faut se donner une vision. Il n'y a pas de problème, mais il faut se donner une vision selon les moyens que nous avons.
Puis ça, ça a mené la danse pour la suite à la mairie de
là,
Québec?
Si on prend... Ben oui, mais si on prend... Ben,
avec M. Marchand, entre autres, en ce moment, c'est votre...
Ben, je ne sais pas, est-ce que M. Marchand s'en permet parce qu'il a vu cette vision-là aussi de Régis Labeaume un peu avant? Moi, je ne crois pas. Parce qu'il a complètement une autre vision. Moi, je pense que M. Marchand, il est arrivé, puis il est arrivé en place, puis il dit, moi, je veux faire un grand changement au niveau, autant au niveau environnemental, climatique, piste cyclable, lien piétonnier, toute cette façon de faire-là, il veut le faire, mais il veut le faire beaucoup trop rapidement.
Donc, encore personne... des legs, sachant peut-être qu'il ne va pas rester longtemps en politique.
Ben oui, effectivement, parce qu'il dit, moi, de toute façon, je
ne suis pas... C'est des questions.
Il dit toujours, je ne suis pas issu pour être réélu. Mais sauf que là, on voit que depuis qu'il a été laissé de côté par les autres... On peut dire par les autres, autant par les autres maires de la CMQ, de la communauté métropolitaine de Québec, mais aussi du côté de la CAQ. On a l'impression qu'il fait. On a l'impression qu'il est tout seul dans tout ce grade, dans sa façon de pouvoir avancer dans cette direction-là. Mais ça prend beaucoup d'argent pour avancer dans cette direction.
Mais vous êtes dans l'opposition, vous avez aussi votre rôle de faire comme là, le déficit, pourquoi on est rendu politiquement dans l'acceptable d'un déficit?
Bien, on le fait pour de vrai, là. On le fait régulièrement en point de presse, mais nous sommes la deuxième opposition. Et c'est sûr qu'on n'a pas la même visibilité.
Vous ne vous sentez pas écouté?
Non, on se sent écouté, oui, puis on a des lignes, mais tu sais, on connaît un peu les lignes qu'on va avoir. On sait qu'on a 7-8 secondes à la télévision, qu'on va avoir 2-3 lignes dans le journal. On est à deuxième opposition. Ça va être le maire qui va être en premier, après la première opposition, mais les flags sont levées. Les flags, on les lève tout le temps. Puis c'est pour ça qu'on aime ça venir à la radio. Puis on aime ça, j'adore venir à ton émission, Yannick, parce que justement, on a du temps. On a du temps pour s'exprimer. Puis quand je vais sur d'autres radios, c'est la même chose. On nous donne le temps de s'exprimer puis de donner
ça,
nos...
Ça, c'est politicien, par exemple, comme réponse. C'est super ici, mais c'est oui. Super ailleurs aussi.
Non, mais j'ai le temps de m'exprimer puis de dire de quelle façon qu'on doit gérer la ville.
Pour
moi,
vous,
je pense...
c'est une bonne façon de parler de la
ville. Bien, moi, là, si tu veux voir ma vision comme chef d'équipe Priorité Québec, là, c'est qu'on doit redonner du pouvoir des arrondissements. Ça, c'est clair. Depuis qu'il y a eu la réorganisation administrative, là...
Ah, moi, je suis pas du tout d'accord. Moi, je regarde la Chine, comment ça se passe, là, puis je trouve qu'ils sont capables de faire passer leurs propres idées à leur population assez facilement.
Oui.
Puis pendant que la Chine va super bien pour faire passer leurs propres idées, bien, il y a d'autres pays comme le Québec où c'est long.
Ben oui.
Ah oui, il faut qu'ils consultent. Fait que,
parce qu'il y en a le problème.
Chine,
là,
j'ai beaucoup d'admiration.
Moi, c'est la Corée.
C'est la Corée.
Mais on va mettre de quoi au clair. Là. Quand tu es démocrate, là, tu dors au gaz. Tu sais, la démocratie, ça dort au gaz. C'est pas compliqué, mais hein, c'est ça la réalité.
Là, il faudrait dire vous faites du sarcasme.
Non, je fais du sarcasme, c'est ça. Almar Marchand, ce que vous voulez dire, dans le fond, c'est que...
Ça avance plus vite, là-bas, qu'ici.
Il manquait quand même, tu sais, puis là, on est...
Je veux pas dire...
Là,
je veux
mais
pas
à la
exagérer.
Fin, il a dit qu'il voulait quand même pas mettre en lumière ça.
Non,
là, on serait très, très démagogue. Mais on s'est posé des questions sur pourquoi on fait ce parallèle-là. Par la suite, il a dit ben c'est pas l'exemple à suivre. C'est correct, il faut le dire malgré tout.
Sauf qu'il faudrait qu'il démontre que c'est pas l'exemple à suivre. Parce que quand il va dans des radios montréalaises ou quand il va avec Marie-Lise Arsenault cette semaine, lui, il est persuadé qu'il a raison et la population est juste mal éduquée sur le sujet. Donc, oui, on va faire des consultations, mais là, si les gens sont pas d'accord avec nous autres, il faut avancer. Il faut continuer de faire ça. Fait que son exemple, c'est la Chine. Je suis pas tant sûr qu'il respecte pas tant ça que ça, là.
Puis quand je dis qu'il était isolé tout à l'heure, là, on a un qui a regardé l'entrevue que tu viens justement de décrire, là. J'ai l'impression qu'il était avec ses fous du roi. Montréal, ça va bien. Il était avec ses fous du roi. Il était avec ses gens de Québec solidaire.
Qu'est-ce que vous voulez dire, le Danny Turcotte l'entoure? Ou...
Ouais, quand...
Non, mais on approuve tout le temps.
Ben oui.
Vu qu'il est un petit peu plus environnementaliste.
C'était une entrevue complètement conviviale. Là. On parle d'un pays communiste. Là. On n'a pas besoin de dire aux auditeurs c'est quoi un pays communiste. Là. Un pays communiste, là, ça consulte pas, ça l'impose. Vous comprenez? Puis là, on parle de sa déclaration qui est faite justement avec la Chine comme si rien n'était, quand on sait que la Chine, en ce moment, c'est le plus grand pollueur au monde.
Vous voulez dire dans l'entrevue qu'il a donnée.
Ben oui, dans l'entrevue qu'il a donnée. Mais tu sais, la Chine pollue à 32% de toutes les émissions de GES. Le Canada est à 1,5. Imaginez la ville de Québec. Je parle même pas de la province de Québec. La province de Québec, on le dit pas assez souvent, mais vous savez que la province de Québec, c'est la province qui émet le moins de GES au Canada. Hein?
Au Canada.
Nous sommes les plus verts des plus verts.
François Legault,
imaginez
ça,
la ville.
François
il l'a
Legault
dit une fois,
dit
je pense.
Oui,
une fois.
Il l'a jamais répété.
Puis il devrait le répéter.
Non, mais parce que t'as peu, là, le fond vert, ce qu'on fait avec ça.
Oui.
Fond vert. Est-ce que vous vous souvenez des dernières nouvelles qu'on avait eues du fond vert?
Oui.
Moi, c'est un article dans le journal qui m'avait marqué. Là. Tu sais, le fond vert, nous autres, ceux qui achètent de l'essence, là, on paye pour le fond vert. Tu sais. Oui. Puis moi, j'ai l'impression que c'est pour des entreprises, mettons, qui veulent innover, qui vont faire en sorte que ça va coûter peut-être moins cher de pétrole puis que ça va être plus environnemental. Dernier article que je me souviens du fond vert, c'est le Gabon. On voulait électrifier une clôture qui servait à la préservation des gorilles.
Ça t'a marqué.
Au
ça.
Gabon. Attends un peu, là. Moi, j'envoie cet argent-là à mon gouvernement, puis le gouvernement a dit ça, c'est en banque dans le fond vert, puis on envoie ça au Gabon pour qu'ils puissent électrifier des clôtures de gorilles. C'est n'importe quoi.
Ah, ça, c'est marquant. C'est vraiment marquant. Mais les gens, ils n'ont pas idée. Quand on va. Tu sais, aujourd'hui, le pétrole, il est à quoi? Le 1,89, là, je ne me trompe pas, ici à Québec?
1,88 en ce moment. On est dans l'acceptabilité parce que c'est à Québec qui dit que le prix raisonnable, c'est 1,89.
Quand on regarde les taxes qui sont reliées justement à tout ça, là, le fonds vert, la taxe sur le carbone ou quoi que ce soit, là, ça commence à faire beaucoup de sous. Là. Ça commence à faire beaucoup de sous du litre. Là. Puis quand on parlait de la taxe sur l'immatriculation, là, vu que M. Marchand se retrouve seul justement à pouvoir taxer, parce que là, on sait que Saint-Augustin et Anse-Nérette n'ont pas d'intérêt pour l'instant.
Lévis, même chose.
Lévis, même chose. Même, je peux même vous dire que le maire du Lac-Beauport, il est ouvert, mais en ce moment, c'est vraiment non pour l'instant. Mais quand on regarde le maire, là, il n'aime pas ça se faire dire non. Hein? Vous l'avez vu que le projet...
Ah, il détestait ça pour mourir.
Il détestait ça pour mourir. Hein, là, il avait promis à la campagne électorale qu'il ne taxera pas l'essence. Mais s'il veut leur faire un petit coup de cochon, là, vous voulez pas embarquer avec moi, puis là, vous me laissez seul, je vais taxer l'essence, moi. Parce qu'il y a le droit de la taxer, l'essence. Montréal la taxe. Ils ont même une dérogation pour aller à un peu plus de 3 cents. Je pense qu'ils sont à 4 cents, je ne me trompe pas. Au lieu de 3 cents, là, c'est la dérogation d'une cent qu'ils ont eue. Mais nous, là, on a le droit de taxer jusqu'à 3 cents. Il n'y a rien qui lui empêche de taxer.
Donc, une station-service à Ancienne-Lorette ne serait pas obligée de mettre cette fameuse taxe-là. Non. Mais les essenceries à Québec
oui,
sont obligées.
Mais les gens d'Ancienne-Lorette, du Lac-Beauport et de Saint-Augustin, ouais. Je pense qu'ils gazent à Québec de temps en temps. Quand tu manques de gaz, tu n'attends pas d'être à Ancienne-Lorette pour sauver une cent ou deux cents.
Ça dépend si tu es un cheap ou pas. Moi, je suis un cheap. La relation que Geneviève Guilbeault semble de plus en plus se détériorer. Je pense que les ponts sont coupés.
Oui.
Est-ce qu'on va vraiment à la ville négocier qu'avec François Legault dans le dossier des transports?
Même la relation avec Jonathan Julien, vous pensez que ça va bien, là? Mais moi, je ne suis pas si convaincu que
ben
ça.
Non, il aurait nommé Jonathan Julien.
Mais non, effectivement. Effectivement. Mais non, je vous dis, là, écoutez.
Jonathan Julien, on ne le voit plus, de toute manière. Il était effacé partout. C'était quelqu'un qui était quand même très actif. Ouais. Les seules fois où je l'ai... Très honnêtement, c'est dans des soirées de fondation. Ouais. Quand j'allais dans mes dernières soirées de fondation, j'ai vu Jonathan Julien comme ministre responsable de la capitale nationale. Mais au-delà de ces soirées-là, j'ai l'impression qu'autant comme la CAQ ou la ville de Québec... Mais honnêtement, je trouvais que c'est un politicien qui avait sa place pour être ministre responsable de la capitale nationale. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas du tout ce qui s'est passé.
Quand tu n'as pas de bonne relation avec le premier magistrat de la ville, là, c'est difficile quand même de faire des sorties ou de pouvoir y démontrer de l'intérêt dans un projet économique de quelconque. Tu sais, je veux dire, écoutez, le gouvernement de la CAQ ne peut pas arrêter demain matin et dire « je ne mettrai plus une scène à Québec ».
Est-ce que c'est professionnel ou personnel? Parce que ça, c'est important. Si on n'a pas des bonnes relations au personnel, ça doit être laissé derrière. Ouais.
Avec Marie-Lise Arsenault en fin de semaine.
Moi, je peux dire que c'est les deux.
Avec Marie-Lise Arsenault, en fin de semaine, il a dit que c'était les deux.
Oui. C'est
personnel et professionnel. Il n'en veut pas, mais il n'ira pas prendre une bière après la politique.
Le problème, c'est que c'est correct de ne pas aller prendre une bière, mais ça, c'est moi qui est très critique. Je suis vraiment très sévère là-dedans. Mais au personnel, si tu as des problèmes avec quelqu'un, ça ne doit pas t'empêcher de faire ton professionnel. Moi, j'haïs Yannick, là, pour m'en confesser. Je travaille avec tous les jours pendant 3 heures. Personne ne s'en rend compte, ou presque. Là.
Non. Sérieusement, on ne s'en rend pas compte du tout.
Mais c'est une farce. C'est une farce, mais honnêtement, je finirais mon mandat avec Yannick.
Ben oui.
Je dirais merci beaucoup. Ça a été une drôle de ride, mais...
Mais les ponts sont coupés, puis ça peut pas aider les citoyens.
Non, mais les ponts sont coupés depuis longtemps, puis on l'a essayé de les renouer, puis ça se renoue pas. C'est visible, là, c'est vraiment les deux. Puis, tu sais, il se plaît de plus en plus à tout le temps sortir contre la CAQ pour dire que la CAQ n'a pas d'intérêt dans du transport collectif.
Pas de vision, non.
Pas de vision, puis ça. Mais, tu sais, on dirait que le maire, il comprend pas que pour pouvoir y attacher une vision, là, ça prend un plan financier. Quand tu n'as pas de plan financier, tu as bien beau sortir comme le grand visionnaire, mais le grand visionnaire qui sort là, prêcher sur toutes les tribunes là, qu'on doit faire ci, qu'on doit faire ça, qu'on est le gros méchant, qu'on devrait faire comme les communistes de la Chine, écoutez, ça coûte de l'argent, ça. Ça coûte de l'argent. Puis là, le contribuable, il dit, moi, je suis écœuré de payer. Moi, là, ma capacité de payer là, est au maximum. Je suis prêt à payer, mais vous allez me démontrer que la gestion a été bien faite. Puis, écoutez, c'est bien beau, là, mais quand tu fais 19 km de tramway là, pour 13 ou 14 milliards, là, même les contribuables qui étaient pour le tramway sont contre le projet de tramway à 14 milliards. Patrick, c'est ça la réalité.
Patrick Paquet, chef de priorité d'équipe Priorité Québec. Dernière question. En fait, oui. j'en aurais peut-être deux.
Oui.
J'ai jasé avec un groupe d'opposition non élu, puis il m'a dit qu'à partir du moment où son groupe, ou son très gros groupe, ou son très, très, très gros groupe arriverait à la mairie de Québec, oui. leur premier geste, ce serait de faire disparaître l'air marchand.
Oui.
T'embarques-tu là-dedans?
On parle de tous les conseillers et conseillères, là, et les cinq transfuges.
Et tout ce qu'ils ont mis en place, en fait.
Oui, il y a quand même cinq transfuges. Et fait, pour les cinq transfuges, oui, il faut que ça disparaisse, ça, c'est clair pour moi, là.
OK. Donc, vous aurez à négocier un peu sur, certaines choses. Pour ceux qui écoutent Boulevard, je vous l'ai appris. Sam Ahmad a eu une rencontre avec Paul-Christian Nolin. C'est son nom, l'ancien attaché de presse de la Bourse.
C'est le chef de cabinet maintenant d'équipe d'abord, effectivement.
Exact. Ils se sont jasés pendant une couple d'heures.
Oui.
C'est le même errage que j'avais à faire la semaine passée. J'en ai parlé. Je sais que votre groupe ainsi que d'autres groupes ont jasé avec Sam Ahmad. Lui, ça commence à presser. Il va falloir qu'il montre ses cartes à un moment donné. Parce que dans le corridor ici, il m'a dit « Yann, tu sais, moi, la politique, je sais comment ça fonctionne et il faut être le plus discret possible. » Mais là, on en parle tout le temps. Il est loin de la discrétion. Là.
Moi, je vois pas. C'est sûr que l'intérêt de M. Ahmad pour devenir maire de la Ville de Québec, ça, c'est clair. Moi, c'est clair pour moi que M. Ahmad a un intérêt. Est-ce qu'il peut changer d'idée comme il a fait en 2021? Moi, là, en 2021...
Est-ce qu'il pourrait avoir un autre poste à la Ville plutôt que d'être maire?
Mais oui, c'est clair. Mais oui. Très bonne réflexion, d'ailleurs. Mais... Écoute, c'est clair que...
Monsieur
Ahmad a fait un excellent travail comme ministre de la Capitale-Nationale, mais est-ce qu'il y a de l'expérience au municipal? Est-ce qu'il connaît la machine municipale? Moi, c'est clair qu'il ne la connaît pas. Est-ce que ça s'apprend? Ben oui, ça s'apprend.
C'est si différent.
Ben oui, c'est
si...
Énorme. Pas pour...
Mais attends, j'ai pas dit.
Pas...
Est-ce que c'est plus emmerdant?
Pas pour parler comme un politicien au 102. Ça, c'est... Ça, c'est la même chose. Ça, c'est pareil. Mais... Ah non, c'est...
Il va falloir qu'il monte ses cartes.
C'est tellement
donné.
Différent parce que, tu sais, on approche le 2 milliards de dollars en budget, mais comparativement à un budget provincial où la capacité que tu as à agir au provincial...
Faut couponiser, c'est ça que vous êtes en train de dire?
Oui, faut couponiser.
Faut se...
Sérieusement, là, tu sais, le monde pense que... Je veux dire, écoute, 2 milliards, c'est énorme que l'argent, mais quand on se compare au provincial, c'est pas la même façon. Ouais. Il faut que tu gères vraiment plus...
Vous autres, vous ramassez là, les pelures de légumes pour faire une autre batch de bouffe, là. C'est ça que vous voulez dire?
Puis en plus, on fait la bouffe pour tout le monde.
Oui.
On fait clairement la bouffe pour tout le monde.
C'est un exercice qui est différent, je comprends.
Oui.
OK. Est-ce que équipe Priorité Québec est appelée à croître?
Ben oui.
Ah oui?
Ben oui. Nous, là, écoutez...
On pourrait aller chercher d'autres expertises, mettons?
Oui. Puis, ce qui a été le plus dur, nous, on ne se le cachera pas, là. Écoutez, fin 2022, début 2023, quand on a fait le ménage, là, vous le savez, là... c'est un chef de cabinet, Jean-François Gosselin, puis Bianca Dussault, je ne le rappelle pas assez souvent, mais écoutez, il faisait partie de notre parti politique, puis maintenant, ils sont rendus avec Bruno Marchand. C'est pas rien, là. Tu sais, quand tu as des valeurs, des convictions. Et nous, on veut s'entourer de gens qui ont des valeurs, des convictions, mais qui vont travailler fort dans leur district. Ça va être la condition principale pour pouvoir adhérer à notre parti politique. Puis, on va revenir à la base. Ça veut dire le service de proximité. Et quand je disais tantôt, Yannick, de redonner du pouvoir dans les arrondissements.
Ouais.
Même M. Marchand l'avait dit à Carpentras, je veux redonner des couleurs aux arrondissements. Voyons, c'est des coquilles vides. Il faut revenir à la base puis gérer un peu comme Mme Boucher le faisait. Mais avec un peu plus de vision que Mme Boucher. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas avoir aucune vision, mais là, il faut arrêter de se lever un matin puis d'avoir des grands projets puis de dépenser de tout bord, de tout côté. Ça, c'est clair. Mais on va le voir avec la dette, on va le voir avec la taxation. Puis moi, je pense que les gens, je vous dis, là, deux choses qu'on va proposer qui n'ont jamais été proposées. Moi, je pense que les gens vont adhérer à notre plan parce que ça va être une vision, justement, qui va être beaucoup plus micro que macro. Puis la deuxième chose, c'est le contrat social qu'on va faire. Ça s'est jamais fait, Yannick. Personne n'a jamais fait ça. C'est qu'on va se présenter en campagne électorale devant les médias, puis on va présenter des promesses électorales sur un tableau qu'on va cocher. Et si on ne coche pas toutes les cases, on n'a pas le droit de se représenter à la prochaine élection.
Ouais.
Ça veut dire que quelqu'un qui se présente pour nous, Ça veut dire qu'il va falloir qu'il coche, il va falloir qu'il ait cette vision-là aussi. Il va falloir qu'il soit prêt de se présenter en conférence de presse, de dire « Si mon chef, mon équipe, le parti qui est Priorité Québec, on ne coche pas toutes les cases, je ne peux pas me représenter. » Il va se le faire mettre en... Imaginez comment les médias vont lui remettre dans la face s'il se représente à la prochaine élection.
Je trouve ça très intéressant comme façon de faire. Oui. Patrick Paquet, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci. Patrick Paquet est chef d'équipe Priorité Québec. À la prochaine.
Merci à toute l'équipe.
Merci. 1h15, on fait une courte pause. On y va.
Marceau le midi.